Le président iranien a souligné que les Américains ont tué des gens partout où ils ont mis les pieds et ont échoué à tromper la nation iranienne lors des récentes émeutes. Quelques 14 000 policiers seraient mobilisés pour le match de la finale de la Coupe du Monde 2022 entre la France et l'Argentine. Et des affrontements ont repris le 16 décembre après une dizaine de jours de calme relatif entre des groupes armés et les rebelles du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. C'étaient les principaux titres. En voici le journal. Le président iranien Ebrahim Raisi a souligné que les Américains ont tué des gens partout où ils ont mis les pieds et ont échoué à tromper la nation iranienne lors des récentes émeutes. S'adressant vendredi 16 décembre aux habitants de Narbandan, dans la province du Khorasan du Sud, M. Raisi a déclaré que l'ennemi avait fait des erreurs de calcul de la même manière que lors de leur sédition précédente. Ils ont imaginé que l'Iran est comme les autres pays et qu'ils peuvent manipuler les gens en scandant de faux slogans, a-t-il dit. Ils pensaient pouvoir tromper les gens avec le mot « liberté » et gagner la confiance de la nation. Mais le peuple iranien est bien conscient qu'ils n'ont donné la vie à personne dans le monde, a ajouté le président. Il n'y a pas besoin de se référer aux livres d'histoire, car nous pouvons maintenant voir ce que les pays occidentaux ont fait à l'Afghanistan ou à l'Afrique, ou au peuple de Syrie et du Yémen, a-t-il encore fait remarquer. C'est la vigilance de la nation iranienne qui a déjoué les complots de l'ennemi, car les gens se sont levés de toutes leurs forces pour préserver les valeurs de la révolution islamique, a dit M. Raisi. De violentes émeutes ont éclaté après la mort de Mahsa Amini, une Iranienne de 22 ans à Téhéran. Elle est décédée le 16 septembre à l'hôpital, 3 jours après s'être effondrée dans un poste de police. Une enquête a attribué sa mort à son état de santé, rejetant les allégations selon lesquelles elle aurait été battue par la police. Les émeutes en Iran ont coûté la vie à des dizaines de personnes et à plusieurs effectifs des forces de sécurité, tout en permettant des actes de terreur et de sabotage dans tout le pays. Au cours des 2 derniers mois, les terroristes ont brûlé des biens publics et torturé à mort plusieurs membres du Basij et des forces de sécurité. La semaine dernière, M. Raisi a déclaré que les autorités concernées étaient déterminées à traduire en justice les auteurs d'attaques contre les forces de sécurité. Selon une déclaration des services de renseignement iraniens, les terroristes et les agences d'espionnage étrangers ont joué un rôle clé dans les émeutes qui auraient coûté la vie à au moins 50 membres des forces de sécurité. Poursuivant la violation des droits de l'homme, l'Arabie saoudite envisage d'exécuter 9 enfants. Les violations des droits de l'homme en Arabie saoudite, y compris l'arrestation de militants et de penseurs saoudiens et les peines lourdes prononcées à leur encontre, se poursuivent quotidiennement. Publiant le nom de 9 enfants sans défense, des organisations de défense des droits de l'homme ont annoncé que les forces saoudiennes envisagent de les exécuter sur ordre de Mohammed bin Salman. Ces enfants peuvent être exécutés à tout moment. Ces organisations, appelant la communauté internationale à déclarer sa solidarité avec ses enfants, ont souligné que cette action de l'Arabie saoudite constitue une violation manifeste de la Convention relative aux droits de l'enfant. Suite à l'enlèvement de dizaines de militants civils et d'enseignants qui se poursuit encore, le Comité pour la défense des droits de l'homme dans la péninsule arabique a annoncé que la nation saoudienne est constamment soumise à l'oppression et à l'isolement, et que la liberté de pensée et d'expression est passible d'une peine de prison. Les autorités françaises ont annoncé vendredi que quelques 14 000 policiers seraient mobilisés dimanche pour le match de la finale de la Coupe du Monde 2022 entre la France et l'Argentine. Le dispositif, présenté au ministre de l'Intérieur, Darmanin, à la préfecture de police de Paris, est plus important que celui déployé pour la demi-finale, emporté par la France contre le Maroc. 10 000 membres des forces de l'ordre. La rue des Champs-Élysées était le théâtre de grands rassemblements publics et de célébrations lors des précédentes victoires de la France en Coupe du Monde, en 1998 et 2018. À cet égard, Gérald Darmanin a rappelé que lors de la Coupe du Monde 2018, 600 000 personnes s'étaient rassemblées sur les Champs-Élysées pour célébrer la victoire. Pour la finale de la Coupe du Monde 2022, Dimanche 18 décembre, la préfecture de police de Paris a prévu 2750 policiers et gendarmes dans la capitale. Les Champs-Élysées seront entièrement piétonniers. Après la demi-finale France-Maroc de mercredi, 266 personnes ont été interpellées dans tout le pays, dont 167 à Paris. Parmi elles, 38 personnes appartenant à la mouvance d'extrême droite. Il convient de noter qu'un adolescent de 14 ans a été mortellement percuté par un chauffard mercredi soir à Montpellier. Après le match France-Maroc et la qualification de la France pour la finale de la Coupe du Monde 2022. Un officier de police supérieure a été tué et deux autres policiers ont été blessés lors d'affrontements avec des manifestants dans la province de Man, dans le sud de la Jordanie, alors que les protestations contre la hausse des prix du carburant se sont étendues à plusieurs villes du Royaume. Dans un communiqué, la direction de la sécurité générale a annoncé que le colonel Abdul Razzar al-Dalaba, chef adjoint de la police du gouvernorat de Man, a été tué d'une balle dans la tête jeudi soir, 15 décembre 2022, alors qu'il faisait face à des émeutes d'un groupe de saccageurs et de hors-la-loi dans la ville d'Al-Husseinia, où des manifestations contre la hausse des prix du carburant et la réduction des subventions sont en cours depuis plusieurs jours. Vendredi matin, la Sûreté générale a ajouté qu'un officier et un sous-officier avaient été blessés par des tirs alors qu'ils affrontaient des groupes de vandales et d'émeutiers dans la ville d'Al-Husseinia. Selon des témoins, un long convoi de véhicules blindés a été vu entrant dans la ville alors que des renforts étaient envoyés dans la zone où le policier a été tué. Au cours des manifestations, des jeunes ont affronté la police dans plusieurs quartiers de la ville. Des escarmouches ont également été signalées dans la ville industrielle, densément peuplée de Zarqa, au nord-est de la capitale, Amman. La police anti-émeute a tiré des gaz lacrymogènes dans le quartier de Jabal al-Abiyad à Zarqa pour disperser les protestateurs. Ailleurs, dans la ville de Tafila, dans le sud de la Jordanie, des dizaines de jeunes Jordaniens ont organisé une manifestation. La police a poursuivi ceux qui scandaient des slogans anti-gouvernementaux. Perturbant la circulation, les manifestants ont également utilisé des pneus enflammés pour bloquer l'autoroute principale entre la capitale et la mer Morte. La tension monte à Man et dans plusieurs provinces du sud de la Jordanie, après plusieurs jours de grève des camionneurs qui protestent contre la hausse des prix du carburant. Les chauffeurs demandent au gouvernement de réduire le prix du diesel. Les magasins du gouvernorat de Man et de plusieurs autres villes de province jordaniennes ont fermé mercredi en solidarité avec les grèves. Les prix des carburants en Jordanie ont presque doublé par rapport à l'année dernière, notamment le diesel utilisé par les camions et les bus et la paraffine pour le chauffage. Des affrontements ont repris le 16 décembre après une dizaine de jours de calme relatif entre des groupes armés et les rebelles du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo, selon des sources locales civiles et sécuritaires. Ces combats sont signalés vers Beviza, dans le territoire de Rutshuru, à quelques 40 km au nord de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu. Il s'agit du front ouest de l'offensive du M23 en direction du territoire de Masisi. Des affrontements similaires avaient eu lieu à cet endroit le 6 décembre, au moment où le M23 se disait prêt à amorcer un retrait des zones dont il s'est emparé ces derniers mois, comme exigé lors du sommet de Luanda du 23 novembre. Ce retrait n'a toujours pas commencé. Ce sommet avait aussi décidé d'un cessez-le-feu, qui a plus ou moins tenu depuis entre les rebelles et les forces loyalistes congolaises, FARDC. Mais pas avec divers groupes armés présents dans la région et décidés à faire barrage au M23. Un massacre a été commis le 29 novembre à une trentaine de kilomètres au nord de Buiza, dans le village de Kijiché, où, selon l'ONU, au moins 131 civils ont été tués par le M23 en représailles d'affrontements avec des groupes armés. Dans un communiqué, le M23 a accusé la coalition gouvernementale d'avoir violé le cessez-le-feu. Les FARDC ne sont pas impliqués à assurer une source sécuritaire, confirmant des combats entre les groupes armés et le M23. Le M23 est une rébellion majoritairement Tutsi qui, vaincue en 2013, a repris les armes en fin d'année dernière. Son offensive s'est accélérée en octobre, quand le mouvement s'est emparé de larges pans du territoire de Rutshuru et s'est approché à une vingtaine de kilomètres au nord de Goma. Voilà, si s'achève le journal, restez à l'écoute du commentaire politique. L'ONU a reconnu le droit à l'autodétermination des Palestiniens. Le mouvement de résistance islamique de la Palestine, Hamas, a salué une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies qui affirme le droit du peuple palestinien à l'autodétermination mettant fin à l'occupation israélienne du territoire palestinien. Cette résolution est une continuation des précédentes adoptées récemment qui affirment ce droit et les obligations ultérieures de l'ONU et internationales de mettre fin à l'occupation israélienne du territoire palestinien et d'accorder au peuple palestinien ses droits garantis par toutes les conventions internationales. S'est réjoui ce vendredi 16 décembre Hicham Rassem, membre du bureau politique du Hamas à l'étranger. Il a déclaré que le veto massif en faveur de la résolution montre une conviction croissante au sein de la communauté internationale que le moment est venu pour les Palestiniens de jouir de leur droit à l'autodétermination, de mettre fin à l'occupation israélienne et de poursuivre cette occupation coloniale pour ses crimes odieux commis contre le peuple palestinien au cours des 7 dernières décennies. Le responsable du Hamas a appelé les pays qui ont voté contre la résolution ou se sont abstenus de reconsidérer leur position. Rassem a déclaré que davantage de résolutions sont nécessaires en faveur du peuple palestinien. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté le mercredi 14 décembre une résolution déclarant que les Syriens et les Palestiniens ont la souveraineté sur leurs ressources naturelles dans les étendues de terre occupées par Israël, sur les hauteurs stratégiques du Golan et en Cisjordanie, y compris Rots Est. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution sur la souveraineté permanente du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Rots Est, de la population arabe dans le Golan syrien occupé sur ses ressources naturelles avec 159 voix pour. Le ministre palestinien des Affaires étrangères Riyad al-Maliki a salué jeudi la résolution de l'ONU. Le vote en faveur de la résolution confirme le droit du peuple palestinien et sa souveraineté sur ses ressources naturelles, y compris la terre, l'eau et les ressources énergétiques, a-t-il entériné. Al-Maliki a appelé la communauté internationale à travailler pour obliger Israël à mettre en œuvre des résolutions internationales et à garantir le droit du peuple palestinien à ses ressources naturelles. Les Palestiniens cherchent à établir un État palestinien indépendant sur les territoires occupés par Israël en 1967, y compris la Cisjordanie et la bande de Gaza, avec Rots Est comme capitale.